L'accent des autres vous accompagne comme chaque semaine. Voici votre rendez-vous avec les médias francophones publics, RFI, France Inter, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. De quoi sera fait votre été? Pourra-t-on partir en vacances et où? Rien n'est encore sûr à 100%, mais ça commence à se dessiner. Si tout va bien, les Français pourront bouger, en France en tout cas, et les Suisses pourraient, eux, quitter leur pays. Si la situation sanitaire le permet, les frontières devraient rouvrir dans un mois avec la France, avec l'Allemagne et l'Autriche. Il faut dire que le tourisme est particulièrement touché, alors le secteur espère sauver ce qui peut l'être cet été. En attendant, la Belgique s'apprête à rouvrir ses écoles dans des conditions très strictes, et pas pour tous les élèves. Ça se fera progressivement à partir de ce lundi. Assouplissement aussi au Sénégal. Là aussi, certaines classes rouvrent, comme les commerces et les lieux de culte. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Nous l'entendrons à Dakar. Enfin, la course au vaccin est lancée depuis un moment. Et dans ce cadre, le Canada va se joindre au consortium chinois qui a développé un des rares vaccins potentiels en cours d'essai clinique sur les humains. La France, pays très touristique, je ne vous apprends rien évidemment, ses milliers de kilomètres de littoral, ses montagnes, ses châteaux, ses nombreux monuments. À quelques semaines maintenant des vacances d'été, tout le secteur retient son souffle. Le tourisme représente, il est vrai, 2 millions d'emplois directs en France. Ça représente 7,5% de la richesse nationale. Mais aujourd'hui, c'est un secteur littéralement chaos. Cela dit, les Français devraient pouvoir bouger en France, en tout cas cet été, mais quid des touristes étrangers, quid des bars, des restaurants aussi. Un comité interministériel s'est réuni cette semaine. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, espère que ça pourra reprendre à certaines conditions.
Ce qui est bon pour le tourisme est souvent bon pour la France. Ce qui frappe le tourisme frappe évidemment la France en plein cœur. La fermeture de tous ces lieux de vie, de tous ces lieux de commerce, c'est un drame pour tous les professionnels du secteur et c'est une des pires nouvelles à affronter pour un gouvernement qui avait fait de l'attractivité du territoire un axe de sa politique économique. S'agissant des vacances, et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution, nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances.
Voilà donc pour le grand public, pour les touristes français, pour les professionnels. Cette fois, le Premier ministre annonce un plan d'aide de 18 milliards d'euros. C'est une bonne nouvelle, mais la clientèle étrangère manquera si les frontières devaient rester fermées. Rémi Brancato de France Inter a rencontré à Mandelieu la Napoule, sur la Côte d'Azur, la propriétaire d'un restaurant de la station.
On a l'impression quand même qu'ils ont conscience qu'il faut faire quelque chose pour ne pas se retrouver avec des gens désespérés. Maintenant, plus de clients, ça ne dépend pas des décisions que politiques. Il y a un climat anxiogène qui s'est mis en place, il y a des gens qui ne veulent pas sortir, il faut que la vie reprenne. Bon, après, voilà, le tourisme ne se résume pas qu'aux vacances des Français dans notre pays. On est quand même le premier pays visité au monde. Une saison sans touristes, sans étrangers, tels qu'ils soient, ça ne restera pas une bonne saison, une belle saison. Du 15 juin au 15 septembre, 80% de notre clientèle, des gens qui fréquenteront la Napoule sont étrangers, oui. Les Allemands, Finlandais, Norvégiens, Suédois, ici, et puis en plus, c'est de la clientèle qui est quand même beaucoup plus à l'aise que nous. Alors, c'est des très bons consommateurs, ça va beaucoup, beaucoup manquer, oui.
Oui, cela dit, la Côte d'Azur pourra peut-être compter sur les touristes suisses, en tout cas Pierre Anchoffa, puisque votre pays a négocié la réouverture des frontières avec ses voisins immédiats à partir du 15 juin.
Avec la France, l'Allemagne et l'Autriche, oui, mais pas l'Italie où la situation sanitaire est encore critique. Donc si l'épidémie ne repart pas de plus belle d'ici là et si les restrictions de déplacement peuvent être levées en France, eh bien oui, les Suisses pourraient profiter cet été du littoral français qu'ils affectionnent. Le président de la Fédération de l'hôtellerie et du tourisme Nice-Côte d'Azur nous confiait que les Suisses assurent en temps normal 5% des nuitées estivales dans cette région. Mais difficile bien sûr aujourd'hui de prévoir le nombre de personnes qui auront envie, dans la situation actuelle, de s'adonner aux vacances balnéaires.
Oui, d'autant que cette ouverture réciproque des frontières, Pierre-Anne, ce n'est pas seulement pour permettre aux Suisses de quitter leur pays.
C'est vrai, et la ministre en charge des questions frontalières, Karine Keller-Souter, a été on ne peut plus claire.
Le tourisme sera possible, mais je veux quand même faire un appel aux Suisses et Suissesses de rester en Suisse pour soutenir aussi le tourisme en Suisse. J'ai parlé avec un représentant du gouvernement tessinois qui est très content de pouvoir accueillir aussi des touristes venant de l'extérieur. Je crois que c'est très important aussi pour soutenir le tissu touristique en Suisse et vice-versa.
Outre cet appel au patriotisme touristique, elle espère donc que nos voisins viendront en Suisse. Elle sait les Allemands amoureux du Tessin, de ses lacs et de ses montagnes. Mais si le secteur touristique compte d'abord sur la clientèle suisse cet été pour limiter les dégâts, sans visiteurs étrangers, ce sera compliqué, notamment pour le monument le plus visité de Suisse, le château de Chillon au bord du lac Léman, sa directrice Marta dos Santos.
S'il fait chaud, les Suisses, ils auront tendance à aller ailleurs, en montagne, puisqu'ils se disent qu'en septembre, à la rentrée, ils peuvent de nouveau aller visiter les musées, donc il n'y a pas d'urgence. Tandis qu'un touriste étranger, quand il est sur place, il va visiter les monuments, les musées à voir dans la région où il séjourne.
Suisse Touriste, de son côté, veut mettre en avant l'image d'un pays sûr et propre, dévoiler les concepts de protection des hôtels pour créer la confiance et tenter d'attirer nos voisins immédiats en Suisse cet été.
Le secteur du tourisme qui espère donc partout que ça va reprendre cet été, au moins en partie. C'est vrai qu'il souffre énormément, on l'a vu cette semaine aussi en Belgique avec cette annonce choc de la compagnie aérienne Brussels Airlines. Elle annonce son intention de se séparer d'un millier d'emplois, ça représente un quart de son personnel. La Belgique qui s'apprête à vivre une nouvelle phase de son déconfinement ce lundi, avec notamment la réouverture des écoles, mais seulement à ce stade pour la dernière année du primaire et les dernières années secondaires. Tout ça évidemment sous conditions très strictes. Les aménagements dans les écoles sont nombreux. Il faut évidemment respecter des mesures sanitaires et de distanciation. Philippe Collette et Julien Bader se sont rendus dans une école du côté de Malmedy, dans l'est de la Belgique, pour voir comment se prépare cette reprise.
À l'extérieur, ce sera d'abord l'aiguillage des élèves. Et c'est le directeur lui-même, Danny Noël, qui va s'y coller avec un enseignant.
Il y a une entrée prévue pour les 6e primaires en partant vers la gauche et une entrée pour les enfants qui sont en garderie, qui vont rentrer par l'autre entrée vers la droite. Tout est prévu pour que personne ne se croise.
Ensuite, entrée dans l'école et là, premier contrôle.
Ici, un enseignant prendra leur température avec un thermomètre à distance. Les garçons iront dans la classe de droite qui leur est réservée et les filles de 6e année iront dans la classe de gauche.
Les classes ont été aménagées, distanciation oblige. À Géraumont, on achève de placer table et chaises.
On a dû un peu réinventer l'école. En fait, une classe classique, les élèves sont placés face au professeur, tandis qu'ici, on doit mettre les enfants le plus possible le long du mur pour que les enfants puissent avoir l'espace nécessaire pour être en sécurité.
Le gel hydroalcoolique et les consignes pour les gestes barrières sont omniprésents. Élèves et enseignants devront être masqués. Ici, par précaution, on n'a pas attendu les masques de la fédération. Des bénévoles les ont fabriqués. Vinciane Warland, couturière, a carburé.
Je pense 560 peut-être.
Ça vous a pris du temps?
Oui, 600, c'est quand même quelques heures de travail.
Aux yeux du directeur, tout ce travail sert avant tout de galop d'essai en vue de la rentrée de septembre.
Reprise très progressive, donc à partir de ce lundi, certaines écoles n'ouvriront pas et certains parents aussi ne mettront pas leurs enfants à l'école. On notera également la reprise des marchés en plein air, la réouverture des musées, la reprise pour les coiffeurs aussi, les tatoueurs et les salons d'esthétique, tout ça bien évidemment, là aussi, à certaines conditions. Au Sénégal également, le président Macky Sall a annoncé cette semaine un allègement des mesures, un couvre-feu réduit, la réouverture des lieux de culte, des marchés, des commerces et de certaines classes dans les écoles. Selon le chef de l'État, il faudra apprendre à vivre avec le virus qui circulera pour lui au moins jusqu'en août ou en septembre au Sénégal. Cet assouplissement divise l'opinion, bonne nouvelle pour certains, mais prématuré pour d'autres. C'est ce qu'a constaté Charlotte Hydrac pour RFI à Dakar.
Tout en lavant ses salades, cette vendeuse de légumes salue les annonces du président Macky Sall.
On est là, coincé. Si on ne va pas au marché ou bien si on ne va pas au travail, nos enfants ne mangent pas. C'est bonne chose que les marchés puissent ouvrir, que les gens puissent faire leur activité. Parce qu'on est fatigué, là, on en est marre.
Je pense qu'il a bien réagi, c'est bon. Les commerces, les réouvertures, les lieux de culte, tout ça, c'est bien. Ça permet aux gens de diminuer le stress, quoi. On doit vivre avec.
Soulagement aussi pour ce fidèle musulman qui est espère pouvoir retourner prier à la mosquée rapidement.
Avec le mois de Ramadan, il faut qu'on parle à la mosquée. On va être distant, je vais être prudent.
Mais pour d'autres Dakarois, il est trop tôt pour assouplir les restrictions. Ils disent craindre un retour de bâton.
C'est très inquiétant, je dis. Le discours reste dans l'ambiguïté. Vu l'ampleur de la pandémie, pour moi, il ne fallait pas qu'il le fasse dans la précipitation. Ouais, je ne sais pas ce qui l'a poussé à prendre dans la hâte cette décision. Mais bon, qu'on fasse à nouveau des efforts.
C'est vraiment risqué parce que la maladie ne fait que croître. Moi, j'aurais préféré qu'on allait vraiment prendre des mesures de sécurité. Déjà, les lieux de culte, je ne pense pas que je m'y rendrai dès demain. Pour le marché, j'y vais plus trop. Je suis très inquiet.
Le ministre de la Santé a prévenu, cet allègement ne doit pas conduire à un relâchement. La bataille doit être plus soutenue, dit-il, surtout dans la capitale.
Reportage donc de Charlotte Hydrac à Dakar pour RFI. On va se quitter au Canada avec vous, Manon Globinski, parce que votre pays annonce une collaboration avec le consortium chinois qui a été l'un des premiers à développer un vaccin potentiel contre le coronavirus.
Il s'agit de la compagnie chinoise CanSino Biologics, associée à un institut scientifique de l'armée chinoise, qui a développé l'AD5 nCoV, un vaccin qui en est déjà à la deuxième phase des essais sur l'humain. Le Canada va pouvoir fabriquer une centaine de milliers de doses pour faire ses propres essais si le plan de CanSino Biologics est approuvé par Santé Canada. En Chine, la compagnie a accéléré le début de la phase 2 devant les bons résultats des doses les plus faibles en phase 1 et voudrait bien commencer bientôt la phase 3 qui pourrait inclure jusqu'à 10 000 personnes. Au Canada, les essais pourraient aussi se dérouler à un rythme accéléré avec un début de phase 3 idéalement en septembre.
Et en attendant, Manon, le Canada, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, n'a pas de grande capacité de production de vaccins. Alors est-ce que cette collaboration lui garantira un approvisionnement à partir du moment où le vaccin sera validé?
Eh bien ça, l'histoire ne le dit pas. Une journaliste scientifique m'expliquait que c'est comme si le Canada avait pris place à bord du bateau, mais qu'il n'a pas nécessairement une place à l'avant. Et vous faites bien de mentionner la faible capacité de production de vaccins dans les installations publiques au Canada, parce que le pays a quand même une solide industrie pharmaceutique privée de médicaments brevetés et générique. Ces derniers jours, le gouvernement fédéral a donc alloué 44 millions de dollars, soit 29 millions d'euros, au Conseil national de recherche pour mettre à niveau son centre thérapeutique de Montréal pour pouvoir produire des vaccins, le cas échéant.
Et les recherches se poursuivent donc et elles sont nombreuses évidemment en espérant un vaccin au plus vite. L'actualité francophone de la semaine va se refermer ici pour aujourd'hui. C'était l'accent des autres avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, France Inter, et la RTBF. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.